Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour Fidèle au poste. En entame de cette émission, nous avons rendez-vous avec l'autrice de la bande dessinée La Muette, Drancy, un camp aux portes de Paris. Et puis nous reviendrons sur ce film fondamental, Exodus. Fidèle au poste, c'est parti pour 30 minutes. Et nous commençons avec Oriental Swing. Est la toute première bande dessinée sur le camp de Drancy, résultat d'un exigeant travail de recherche. Valérie Villieu, la scénariste de ce très bel album, avait déjà publié il y a quelques années « Deux hivers et un été » chez La Boîte à Bulles, le récit d'une juive polonaise exilée dans les Alpes avec sa sœur durant la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de ce témoignage que les personnes de Beno, Shana et Herman sont nées, tous les trois étant passés par Drancy, avant d'être déportés. Valérie Villieu.
Avant de me lancer, ça a été de grandes questions, parce que comment aborder une période aussi longue? Comment donner un fil au récit, une continuité, quand les gens partaient sans cesse, arrivaient sans cesse? Donc j'ai eu l'idée de prendre des personnages comme ça, qui apparaissaient, qui malheureusement disparaissaient, un espèce de passage de relais comme ça entre des hommes. Et je tenais à rester au plus près de ces hommes-là, c'est-à-dire... Par exemple, je n'ai absolument pas voulu qu'il y ait des scènes qui se passent à l'extérieur. Je voulais que tout soit à l'intérieur pour que l'on perçoive ce qu'avait pu être leur vie, complètement coupée d'une société dont ils avaient été mis au banc, quoi, on va dire.
65 000 juifs de France transitèrent par la Muette avant d'être envoyés vers l'Est par convoi. À l'aide de photos historiques et de nombreux dessins de détenus, Simon Géliot, le dessinateur, retranscrit graphiquement l'architecture du camp et son ambiance lugubre. Il parvient à donner un visage à ces milliers de personnes, à leur rendre une place, une individualité dans ce massacre de masse.
Pour construire ces personnages, j'ai beaucoup lu les témoignages qui ont pu paraître après la guerre. J'ai beaucoup écouté aussi de témoignages, que ce soit au mémorial de la Shoah ou sur le site de l'INA. Et ça m'a permis de construire ce récit par des petits détails qui étaient donnés par les personnes et qui, du coup, nous mettaient dans la vie des lieux. Je me suis aussi inspirée, mais de façon très très libre, de trois personnages qui sont donc des personnages qui étaient déjà dans ma BD précédente, qui sont donc le frère et les parents de la dame qui m'avait raconté son histoire, qui elle aussi m'a livré des choses sur eux, sur des habitudes. Par exemple, le fait que Beno chante. Ce personnage qu'on voit dès le départ de l'ouverture du camp, qui est un peu un des personnages importants de la bande dessinée, le fait qu'il chante, ben c'est des choses qui m'ont été racontées par sa sœur.
Les nuances de gris apportées par le coloriste Philippe Marlu permettent de visualiser la noirceur du mâchefeur, résidu de la combustion du charbon, qui recouvrait la cour et produisait beaucoup de poussière. Le travail de ce trio est remarquable et il est indéniablement saisissant dans son réalisme.
Je me suis beaucoup inspirée aussi, parce que je le trouve éminemment humain, du livre de Noël Calef, hein, qui est la personne qui a écrit Ascenseur pour l'échafaud et qui a séjourné, qui est resté au camp de Drancy plusieurs mois au début de l'existence du camp et qui a écrit un livre... Je trouve que tout le monde devrait lire, qui est d'une humanité immense. Et je me suis inspirée du personnage de Noël Calef à travers le personnage de Nissim, qu'on voit aussi dans la première partie du récit. Voilà, j'ai essayé de donner en fait de l'épaisseur à ces personnages. Parce qu'au final, je crois que ce qui m'importe, c'est... Quel est l'impact de l'histoire sur les individus? Et ça, on le voit à travers leur vie, à travers l'impact que ça a sur leur quotidien, sur leur vie.
Le lecteur est transporté parmi les détenus qui ont chacun leur propre âme et leur propre histoire. Malgré les rivalités qui peuvent s'installer dans la survie, des amitiés et une solidarité s'instaurent, le plus souvent entre détenus. La Muette, Drancy, un camp aux portes de Paris, est signé Valérie Villieu et Simon Géliot et est disponible à la boîte à bulles.
Chérim.
נצל השדה נשב על גבעה רעננה שם אני מושל יחידי תחת כף רגלך הקטנה שם שלוות השקט מסביב ואהבתנו שם תפרח בין יתר שושני האביב קומי ונצא בשדה נשב יד ביד נלך נעלה על גבע ש שם אני מושל, מושל יחידי, תחת כף רגלך הקטנה.
Vous écoutez Fidèle au poste du lundi au jeudi, une émission disponible en live, mais aussi en podcast. Vous avez toute la collection en allant sur le site de la radio. En juin 1947, le navire Exodus, transportant des rescapés de la Shoah, était intercepté par les autorités britanniques au large de Haïfa. Pourtant, le projet de film qui relatait cette histoire en parallèle de la création de l'État d'Israël, intitulé Exodus et réalisé par Otto Preminger avec Paul Newman, ne suscitait pas beaucoup d'intérêt à Hollywood. Tout a changé après sa sortie en décembre 1960, qui fut un grand succès commercial, mettant fin aux doutes initiaux. Auparavant, l'Amérique et son industrie cinématographique n'étaient pas particulièrement favorables à Israël. Dans les années 50, rien ne laissait présager la solidarité actuelle des relations israélo-américaines. Pourtant, cette relation s'est renforcée dans les années 60, grâce notamment à un imaginaire commun façonné par le film Exodus. Depuis le milieu des années 50, la MGM souhaitait produire un film à grand spectacle sur la naissance d'Israël. Elle avait commandé un scénario à Léon Uris, un jeune romancier américain qui souhaitait raconter l'épisode du navire Exodus et la naissance de l'État juif. En 1956, Uris se rend en Israël et rencontre de nombreux témoins de la guerre d'indépendance de 1948. Ce séjour le marque profondément, il y découvre une autre réalité, des combattants juifs, loin de l'image passive véhiculée à l'époque en Europe. Cependant, à la fin de l'écriture, la MGM abandonne le projet, craignant des réactions négatives et un éventuel boycott arabe. C'est alors que le réalisateur Otto Preminger, d'origine allemande et exilé aux États-Unis durant la période nazie, lit le manuscrit et décide de l'adapter au cinéma. Publié en 1958, le roman Exodus devient rapidement un best-seller, avec 4 millions d'exemplaires vendus. L'adaptation cinématographique dresse un portrait épique de la naissance d'Israël. Le personnage principal, Ari Ben Kanaan, combattant déterminé à conduire 600 juifs vers la Palestine sous mandat britannique, devient rapidement une figure typique du héros hollywoodien. L'adaptation par Preminger adopte clairement le point de vue des combattants juifs, tout en cherchant à rendre compte fidèlement des événements historiques. Malgré les réticences initiales de responsables israéliens inquiets d'une représentation trop favorable au groupe extrémiste Irgun et au groupe Stern, Preminger réussit à tourner son film principalement en Israël, sur les lieux mêmes des événements historiques. Exodus a permis au public américain de découvrir Israël de façon concrète pour la première fois, provoquant une hausse significative du tourisme américain vers ce pays au début des années 60. L'histoire d'amour entre Kitty, l'infirmière américaine chrétienne, interprétée par Eva Marie Saint, et Harry Ben Canaan, le sabre aux yeux bleus, né en Israël, incarné par Paul Newman, tient un rôle pédagogique capital. Le spectateur moyen s'identifie naturellement à Kitty, étrangère au drame d'un peuple, et à son aspiration à une terre dont elle ignorait tout. Paul Newman occupe le rôle de guide pour cette novice. Son personnage est juif, à la différence de Kitty. Ils se marieront et Harry Ben Canaan restera juif. Non seulement sa future épouse le comprend, mais l'accepte pleinement. Cette approbation d'une femme qui se définit comme américaine porte une valeur symbolique évidente. À travers elle se dessine le soutien américain à l'État d'Israël. La solidarité du citoyen américain juif envers Israël n'entraîne plus de réticence à une quelconque double allégeance. Elle devient une autre manière d'exprimer son américanité. Exodus est longtemps resté le prisme à travers lequel les citoyens américains regardaient Israël. Ce film est resté inséparable aux enjeux politiques au Proche-Orient. En pleine guerre des six jours, on pouvait lire dans le magazine Life, en dessus d'une photo du général Yitzhak Rabin, l'homme qui inspira le personnage d'Harry Ben Canaan, ce qui par ailleurs était totalement inexact. Le New York Times dressait le même parallèle entre Paul Newman et Yitzhak Rabin dans un portrait consacré au futur Premier ministre de l'État d'Israël. C'est comme si la guerre des six jours, au lendemain de laquelle débuta une véritable lune de miel entre Israël et les États-Unis, se devait de prolonger les fondamentaux d'Exodus. L'armée israélienne devait écraser les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes. Yitzhak Rabin était l'un des hommes qui conduisait l'armée d'Israël à cette victoire, mais ne pouvait pas être seul. Paul Newman aussi se trouvait dans son sillage.
You sure you guys want to go to Queens? A couple rich fellas like you should be in Manhattan. Stay at the Waldorf or the Palace.
The Palace sounds good. Take us there.
No, I want Queens. We're not rich. We're ordinary African students. Whatever you say, pal.
We're taking it back to the real. Move on till infinity. Original immigrants, never facsimile from Flatbush to Marcy. Bush with Canarsie. My Africans are running things. Cuts us on Canal Street. Selling fake Gucci, fake Prada, fake Louis V. Some of us got bachelor's degrees between you and me. We still push the dollar cab. Wherever the dollar's at, we wire that. Western Union money ground without a doubt. Speaking with our native tongue. And I ain't talking dropping them. I'm talking trees from Healy Woolof. You're not understanding them. Dance Africa when we parading. Ah, bam. The flyest African women be looking like too damn. Some are Eritrean and some are from Sudan. Some can hear the model and some can hear the dance. Whatever the hustle, baby, keep the dream alive. New York City Africans be hustle for survival.
I'm in
the
city, I'm in the city.
Half a meal for bail cause I'm African.
You're looking for something to eat, uptown Bronx, where you get the best of love rice. Sipping on that malt again, it's just to calm the hot spice. Talking in our flat accents, and we code switching. Depending on who you with, Africans will talk different. Cause sometimes it's politics, sometimes it's football. Sometimes we're sending flicks, sometimes a phone call. But when it comes to style, we fly asking the Africans. Running the runway, New York Fashion Week, but it ain't all flashy. Some of us are illegal, either working off the books or off the looks of other people. But please don't hate us, this is what they made us. Some married for love, others married for papers. But at the end of the day, you know we all in. May not get along at home, but over here we all fam.
Half a meal for bail, cause I'm African. La recommandation du jour.
Rions des Juifs avec les Juifs. Telle est l'ambition de cet album de bande dessinée. On peut rire de tout, sauf de sa mère, signé Constance Lagrange aux éditions d'Argo. L'humour, la dérision, la plaisanterie, le mot d'esprit font, on le sait, partie intégrante de la culture juive depuis des siècles. Chez les Juifs, comme chez tant d'autres, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Constance Lagrange a choisi le second. Rions pour être ensemble, parce qu'on ne peut pas pleurer tout le temps et parce que rire est la dernière chose qui nous reste. Constance Lagrange.
Je cherche toujours cette équilibre entre gravité et légèreté dans l'intime, dans le dessin. Et avec cet album de Pef Juif, j'avais envie de revenir à quelque chose de direct, de vivant, mais qui a du fond. Et je trouve que c'est parfois quand on fait rire qu'on touche le plus. Donc c'était un petit peu pour ça que j'ai décidé de faire ce livre.
En entame de cet album, Yvan Jablonka retrace l'histoire de cet humour pour mieux en affirmer l'urgence et la nécessité. Comme il le dit dans sa très documentée préface, l'humour, l'autodérision font partie de la culture juive qui ne peut se réduire aux tragédies de l'histoire.
Pour moi, c'est un livre de transmission et surtout pas de repli. C'est pas un livre sur les Juifs ou pour les Juifs. C'est un livre de blagues, d'humour et puis... C'est sur ce que ça dit nous tous. Il se trouve, en l'occurrence, ça tombe bien que les blagues juives ont cette force universelle puisqu'elles parlent de peur, d'absurde, de famille, de mauvaise foi, enfin, en fait, de tout, de la vie. Et donc, c'est ça que je trouvais absolument nécessaire. Voilà.
Le roman graphique On peut rire de tout sauf de sa mère, ce sont 120 pages d'histoire gag en une page que Constance Lagrange a consigné dans son recueil. Elle y montre, entre autres, que Dieu, chez les Juifs, ne se met pas en colère si on se moque de lui. Et c'est déjà beaucoup.
Je voulais trouver un côté un peu dessin de presse, un peu instantané, avec un style assez épuré. C'est le premier album que je fais qui est totalement noir et blanc. Il y a une grande inspiration, bien sûr, d'idées noires de Franquin, qui est une bible de l'humour noir. Mais aussi, je pense qu'il y a peut-être un petit hommage aux premières bandes dessinées comme celle de Rodolphe Töpfer, je crois que c'est son nom. Je voulais un dessin très simple puisque le principe d'une blague, c'est que on donne les éléments les plus importants pour planter le décor et après on se la réapproprie. Donc là, l'idée, c'est de donner ma version de la blague, mais sans trop en rajouter, en fait, en gardant l'essentiel.
L'humour juif est subtil et a une tradition historique séculaire. Avec cet album, on rit sainement, en liberté, et c'est essentiel en ces temps où nuages noirs qui s'amoncellent.
Au final, c'est un rire qui relie, c'est pas un rire qui divise. On se moque pas, on rit avec. Voilà, mon intention, c'est le partage, l'autodérision. Et c'est quand même ça qui permet de désarmer les tensions, en fait, en se mettant en scène soi-même et les autres.
Un humour toujours en demi-teinte, dont la religion est évidemment un des axes. Il y a une part assez surréaliste parfois. L'humour sauve et rire de soi est une force.
Il y en a qui viennent de ma famille, d'autres de livres, peut-être aussi des inspirations de séries. Je voulais pas juste les illustrer, mais je voulais vraiment les rejouer à ma manière. Et voilà, c'est un travail d'adaptation plus que d'archivage.
Un dessin en noir et blanc et à la plume, un album où on se moque de tout, sauf bien sûr de sa mère. Vous avez bien retenu, Ilana, On peut rire de tout, sauf de sa mère, est disponible aux éditions d'Argo.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Allô, Docteur Wills, ici Mickey Sachs. Vous avez deux secondes, je vous pose une question.
Bien sûr, Mickey, de quoi il s'agit?
Si on a une baisse d'audition dans une oreille et que ça ne vient pas d'un virus ou d'un gros bruit ou autre chose, quelles sont les possibilités?
C'est très vaste. Souvent, c'est héréditaire. Une grippe, même un petit bruit peut créer ça.
Très bien, mais rien de plus grave?
Eh bien, si, je crois que si on noircit le tableau, on pense à une tumeur au cerveau.
Ah bon?
Dis donc, tiens, voilà les nouvelles pages, là.
Les téléprompteurs les ont eues?
Non, pas encore, non.
Pourvu qu'elles soient bonnes?
Ah, ça oui, et comment? Et on arrive dans 2 minutes, d'accord? Mickey, mais ça ne va pas, qu'est-ce que t'as? Tu es tout blanc.
J'ai des vertiges, là. Tu vois, je me sens mal. On t'entend pas sonner. Y a pas un bruit de sonnerie dans la pièce, là?
Oui, j'entends.
Ah oui, non, pas
allô?
Ça, là, c'est...
Oui, oui, nous travaillons tard ce soir. Non, on commandera à l'extérieur, ça ne fait rien, oui.
Oh là là, si jamais j'ai une tumeur au cerveau, je ne sais pas ce que
mais
je vais devenir.
Tu n'as pas une tumeur au cerveau, il ne t'a pas dit que tu avais une tumeur au cerveau.
Ah non, non, bien entendu, ils ne vont pas me le dire. Voyons, tu sais bien que les gens plus faibles, des fois, ils se paniquent quand
mais
on leur apprend
toi.
Ça. Mais pas toi. Oh mon Dieu, t'entends pas que ça bourdonne, il y a quelque chose qui bourdonne.
Mais qu'est-ce t'en prie, on a une émission à faire.
Non, j'arrive pas à me concentrer là-dessus.
Mais tu vas parfaitement bien.
Mais si je vais parfaitement bien, alors pourquoi est-ce qu'il veut me faire passer tous ces tests?
Eh bien, il faut qu'il écarte certaines choses.
Écarter quoi?
J'en sais rien, le cancer ou...
Silence avec ça, je ne veux pas entendre ce mot. Je ne veux pas qu'on prononce ce mot quand je suis dans le bureau.
Mais tu n'as aucun symptôme.
Mais comment j'ai les symptômes classiques d'une tumeur au cerveau?
Il y a 2 mois, tu as cru que tu avais une forme maligne de mélanome.
Mais c'est évident, tu sais bien, c'est cette subite apparition d'une plaque noire sur l'omoplate.
C'était sur ta chemise.
Mais et comment je pouvais le savoir? Moi, tout le monde montrait mon dos du doigt.
Bon, viens, il faut encore qu'on mette au point qui on va engager.
Non, je peux pas, j'ai pas la tête à ça. Ouais. Ce matin, tout allait si bien. Tu sais, je sais pas ce qui a fait tout basculer.
Et t'étais complètement cafardeux ce matin, avec les mauvaises critiques qu'on a eues, les indices effroyables, les sponsors sont foudrages.
Non, mais je nageais dans le bonheur, je m'en rendais pas compte, mais je nageais dans le bonheur.
Merci de votre fidélité. Fidèle au poste se termine pour aujourd'hui. Demain, dernier jour de la semaine, nous parlerons bande dessinée, musique de film avec Bernard Herrmann et Yom HaShoah oblige, nous explorerons les archives de la télévision française. Mais d'ici là, passez un excellent après-midi à l'écoute de Judaïka et je vous donne rendez-vous demain à 14h.